Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. En République centrafricaine, le gouvernement affirme que des progrès ont été faits en vue de la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes, conformément aux dispositions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Des officiers supérieurs et des officiers subalternes de l'armée ont été informés sur la gestion et le stockage des munitions et armes en ce qui concerne les armureries. Nous sommes prêts, a déclaré le porte-parole du gouvernement Ange-Maxime Kazaghi. D'après lui, les progrès actuels dans la mise en œuvre du programme de désarmement s'inscrivent dans le cadre de la levée de l'embargo sur les armes à destination de la RCA. La mission de l'ONU en RCA, la MINUSCA, a rappelé que le Conseil de sécurité avait adopté un chronogramme en janvier demandant à la République centrafricaine de fournir en juin un rapport sur les progrès enregistrés dans le cadre de la gestion ainsi que le stockage des armes. Le Conseil a déjà accepté des demandes de levée partielle, permettant ainsi à la Russie et à la France de fournir des armes aux FACA, les forces armées de la Centrafrique.
République démocratique du Congo, le représentant de l'Union européenne, RDC, a publiquement accusé mercredi Lambert Mende, l'ex-porte-parole de l'ancien président Joseph Kabila, de déni de démocratie, justifiant ainsi les sanctions de Bruxelles à son égard. Plus de détails avec Eddy Isango.
Encore une fois, les élections au Sankuru en RDC sont annulées. Encore une fois, Lambert Mende fait obstacle et justifie les sanctions imposées à son égard par l'Union européenne, a posté sur Twitter Guillaume Chartrain, premier conseiller de la délégation de l'Union européenne. Nous serons vigilants quant aux décisions prises à la suite de ces nouveaux dénis des démocraties locales, a ajouté M. Chartrain. Lambert Mende est candidat au poste de gouverneur dans sa province du Sankuru. La consultation des députés provinciaux prévue hier a été reportée au 20 juillet. Le Sankuru est la dernière des 26 provinces où l'élection du gouverneur n'a toujours pas eu lieu. Initialement candidat unique, M. Mende, ancien porte-parole du gouvernement, avait saisi la Cour constitutionnelle contre la réhabilitation de son rival Joseph Stéphane Mukumadi. La candidature de ce dernier avait été invalidée puis rétablie sur décision du Conseil d'État.
Direction Afrique de l'Ouest maintenant. Signature à Ouagadougou d'un accord de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger. Le document signé dans la capitale burkinabé mercredi porte notamment sur la sécurité et le développement. Raïssa Girondin.
C'est un accord de coopération dans différents domaines, dont la sécurité, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé et l'éducation. D'après le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui a signé ce texte avec son homologue nigérien. D'une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, cet accord permettra de mettre en place de façon concertée des projets de développement qui couvrent les espaces qui sont voisins et parfois même avec les populations. Ces populations qui appartiennent aux deux pays vont avoir une vie en commun, un développement en commun et une perspective d'avenir en commun, a réagi le chef de la diplomatie nigérienne, Kala Ankwaru, saluant un accord original. Ces deux pays pauvres du Sahel sont confrontés à des groupes islamistes et du banditisme et partagent un millier de kilomètres de frontières poreuses.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, l'armée française a annoncé la mise en sommeil de sa base de Madama dans le nord du Niger. L'état-major français compte engager les moyens de cette base dans le Liptako-Gourma, l'espace frontalier que se partagent le Niger, le Mali et le Burkina Faso, une zone en pleine effervescence. Cette annonce a suscité des réactions au sein de l'opinion à Niamey, la capitale nigérienne. Reportage de notre correspondant sur place, Abdourazak Idrissa.
La décision de l'état-major des armées françaises et sa justification sont parfaitement comprises et acceptées par les autorités nigériennes, selon Kala Moutari, le ministre de la Défense.
C'est une décision souveraine française, mais que les Nigériens comprennent parfaitement parce qu'il s'agit en fait des préoccupations, l'installation des détachements militaires au Pond, à des impératifs de sécurité. Et les impératifs de sécurité aujourd'hui sont plus importants dans le Gourma que ne le sont dans cette partie du Niger qui est totalement sous contrôle.
Les Français quittent Madama mais ne quittent pas le Niger, encore moins le Sahel. Il n'y a donc aucune fierté à avoir, estime l'activiste Ibrahim Djouri de l'association Alternative Espace Citoyen.
J'estime que cet espace sahélien, en fait, ce n'est pas un espace souverain. C'est un espace qui leur appartient. À eux d'organiser la défense des intérêts français. Et en fonction, justement, de ce que cet intérêt dicte, ils vont déterminer là où ils vont être. Et ils estiment que pour ce cas précis, selon eux, leur intérêt se trouve dans cette partie malienne. Mais pour eux, en fait, ça ne signifie pas quitter le Niger, c'est quitter Madama. C'est deux choses, à mon avis, différentes. Ils vont continuer à exercer leur domination et je pense qu'il n'y a aucune fierté, au fond, en dernier ressort, pour nous autres qui souhaiterions les voir quitter carrément notre pays, sinon au besoin, l'espace sahélien et plus généralement l'Afrique dans son ensemble.
Pour Moussa Aksar, journaliste spécialiste des questions de sécurité, les raisons de cette décision sont à regarder ailleurs.
Je pense qu'ils ont fini un travail. Vous rappelez pourquoi cette base-là est installée, c'est pour surveiller la passe de Salvador, c'est pour surveiller les flux des terroristes qui viennent de la Libye. Mais entre-temps, en outre, vraiment, selon nos informations, elle avait plus d'autres motivations qui peuvent être, vous savez qu'il y a des rebelles tchadiens qui passaient par cette zone-là. Au moment où Déby a commencé à parler du franc CFA, on a commencé un peu à s'émanciper de la même mise de la France. On a vu comment quelques individus ont été armés, mais qui passaient par le Niger pour aller attaquer son territoire. Le départ de ces Français de cette base-là coïncide avec la découverte des missiles français sur une base du Marshal Attar dans le sud libyen. Donc apparemment, cette base-là, elle a joué son rôle. Il ne faut pas être dupe.
La base militaire française de Madama avait officiellement pour mission de mieux contrôler les flux de ravitaillement des groupes terroristes au niveau des passes de Toumo et de Salvador par où transitent les trafiquants. Elle était également très bien placée pour des opérations spéciales dans la région. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, en Mauritanie, le blogueur Mohamed Cheikh Ould Mehetir reste en détention au-delà de sa peine après une condamnation pour un article jugé blasphématoire envers l'islam. Le jeune blogueur de 36 ans est en prison depuis janvier 2014 et sa condamnation à mort pour apostasie a été ramenée en appel à 2 ans de détention en novembre 2017. Au micro d'Idriss Fall, maître Fatima Tambay, l'avocate de Mohamed Cheikh Ould Mehetir, réitère que rien ne justifie le maintien en prison de son client.
Le dossier est encore en cours. Mon client n'est pas encore totalement libre. Il avait été condamné à 2 ans en 2017. Et depuis novembre 2017 à ce jour, il n'était pas du tout libéré. Il était mis dans une autre prison secrète. Et depuis un certain temps après les élections, donc les autorités s'activent autour de ce dossier. Bon, pour nous, ce qui est important dans cette affaire, c'est que notre client avait été délivré de la peine de mort par la Cour suprême, ensuite par la Cour d'appel. Sa mise en détention arbitraire doit prendre fin parce que cela ne se justifie ni légalement, ni par aucune autre voie officieuse. Et que si c'était pour sa sécurité, nous pensons que personne ne doit être retenu contre sa volonté. Et aujourd'hui, si les autorités mauritaniennes décident de le libérer, je pense que c'est une très bonne chose et nous saluons cette décision. Nous pensons que Mohamed doit être rétabli dans ses droits.
Maître Fatima Tambay, contacté à Nouakchott par Idriss Fall.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, le président du Liban, Michel Aoun, a fait part mercredi de son regret au lendemain de l'annonce de sanctions de Washington contre des élus du mouvement chiite libanais Hezbollah. Pour sa part, le président du Parlement libanais, Nabi Berri, autre allié de cette puissante formation, a dénoncé ce qu'il a appelé une agression contre le Liban. Le point avec Irénée Herman Ungo.
Le Liban regrette le recours par les États-Unis à ce genre de mesures visant des députés élus, a indiqué Michel Aoun dans un communiqué. Le Premier ministre Saad Hariri a pour sa part souligné que ces nouvelles sanctions visant le Hezbollah représentent un tournant du fait qu'elles touchent des députés. Les sanctions américaines ont été vivement condamnées par le chef du Parlement libanais, Nabi Berri, selon qui elles s'apparentent à une agression contre la Chambre des représentants et certainement contre le Liban. Les États-Unis ont annoncé mardi des sanctions contre deux députés du Hezbollah, Amin Chéri et Mohamed Hassan Rad, accusés d'exploiter le système politique et financier du Liban au profit du Hezbollah et de l'Iran. Ils ont également sanctionné Wafik Safa, chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah, allié de l'Iran et considéré par Washington comme une organisation terroriste.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.